Une fleur dans un champ d'herbe par Richard Keller. Chapitre 20. Gilles attend avec intérêt les résultats des analyses diligentées en Savoie. La description des vêtements retrouvés sur le cadavre ne laisse planer aucun doute. Il s'arme de patience. D'ici quelques heures, le verdict tombera. Le dossier du corbeau l'intrigue. Il se plonge dans les feuillets reçus. Un détail l'interpelle. Le calomniateur s'est trahi. Il a acquis cette certitude. Il lui reste encore du chemin à parcourir pour confondre l'individu. Il décortique chaque lettre anonyme. Chacune est passée au peigne fin. Un mot attire son attention. La feuille adressée à Éléonore Bolton est signée. Le diffamateur tombe le masque dans ses propos. Il sait qu'il lui faudra amener l'odieux personnage dans la lumière. Il vient de franchir un bel obstacle. Malgré le recul, il lit avec autant d'aversion les insanités proférées. La relecture lui ouvre pleinement les yeux. La lettre destinée au docteur Lecœur permet d'affiner les soupçons. Il retient deux suspects. Le doute n'est plus de mise. Il lui faut agir en toute discrétion. Seul dans son bureau, il réfléchit sur la conduite à tenir. Il décide de poursuivre en solitaire les investigations nécessaires et garde pour lui ses découvertes. La brigade est quasi déserte. Le bocage, engourdi par l'hiver, somnole. La majorité des gendarmes passent Noël en famille. Il n'en reste que quatre de permanence. En cas d'échec, il pourra justifier son action solitaire par l'effectif réduit. Il ne pouvait disposer d'hommes à ce moment précis. Il ferme la porte du bureau. La pêche aux indices supplémentaires commence. Il dispose de deux pistes et d'un peu de temps. Le corbeau ne se doute pas qu'il s'approche de la vérité. À ce jeu, le volatile au noir dessin y laissera des plumes. Gilles ne manque pas de matière grise. Son intelligence et son esprit logique solutionnèrent bien d'autres situations, tout aussi compliquées. L'épistolaire ne le sait pas. Il revient au bureau une bonne heure plus tard, tenant dans sa main gauche une chemise cartonnée. À l'intérieur figure toute la panoplie du parfait maître chanteur. Il vient de trouver ce qu'il cherchait. Les preuves s'accumulent. Des missives prêtes à l'expédition s'étalent devant lui. Il subsiste une seule ombre au tableau. Le corbeau est toujours dans la nature. Les enquêteurs se présentent simultanément chez les trois fournisseurs de l'entreprise Lachenoz. Quatre gendarmes garent une fourgonnette dans la cour de la ferme de Louis Reynaud à Neuve-Église dans le Cantal. L'homme manifeste sa surprise en voyant la maréchaussée venir à lui le jour de Noël et s'interroge sur ce que lui vaut cet honneur. Le chef de la brigade locale le salue et lui demande s'ils peuvent discuter au chaud. Le froid vif saisit le groupe. Il les invite à le suivre. Ils se retrouvent dans la cuisine où le poêle diffuse une chaleur bienfaisante. Il propose une tasse de café. Ils acceptent volontiers. Louis Reynaud possède des machines agricoles avec son frère Jean. Ils sont tous deux célibataires. Louis a succédé à son père, qui s'est lancé dans le négoce de paille et de fourrage immédiatement après la guerre. La France rurale se mécanisait. Les paysans auvergnats n'avaient pas tous eu les moyens de suivre le progrès. Le père Reynaud, en homme avisé, a décelé tout le parti qu'il pourrait tirer de cette évolution. Il a acheté une moissonneuse et a loué ses services auprès des agriculteurs du canton. Il a suivi cette mutation et s'est adapté. Son sens inné des affaires a fait le reste. Il est devenu incontournable pour ceux qui souhaitaient une récolte rapide selon les méthodes modernes. Lorsqu'ils furent en âge de travailler, ses deux fils ont participé activement dans l'affaire. Au décès du père, Louis a pris la suite. Cela s'est passé le plus naturellement du monde. Le vieux Reynaud préparait depuis plusieurs années son fils aîné. Son frère a continué de travailler avec lui. Rien n'a changé, hormis la disparition du patriarche. De nos jours, les deux frères assurent seuls le labeur. ils n'ont pas d'ouvriers. Il arrive qu'ils emploient un paysan du pays à titre occasionnel. L'essentiel des travaux s'exécute sur un laps de temps réduit. La première récolte de fourrage se situe début juin, la dernière le 15 septembre au plus tard. Louis a confirmé l'expédition de la quasi-totalité de son stock d'herbes d'ensilage à l'entreprise Lachenose. La négociation a été âpre. En bon Auvergnat, il en a tiré un bon prix. L'ensemble des ballots provient de l'unique machine qu'il a acquise l'année précédente. L'avantage du produit saute aux yeux. Plus besoin de silos pour le stockage. Les balles closes hermétiquement peuvent séjourner à l'extérieur sans risque de détérioration. Le chef lui demande où se trouve son frère. Il répond par sous-entendu. Jean console une veuve à quelques kilomètres d'ici. Il propose de l'appeler au téléphone. Le chef l'en dissuade. Ce n'est pas indispensable. Il lui demande s'il peut indiquer les dates d'ensilage. Déconcerté par la question, il réfléchit. Il se souvient de la première parcelle traitée. Il s'en rappelle à cause de la fête au village voisin. Il a festoyé plus que d'ordinaire. L'excès de boisson a fait le reste. Le lundi, la tempête a sévi sous son crâne. Il a attaqué la parcelle après un passage à la pharmacie locale pour soigner sa migraine. Le chef veut connaître la date exacte de la fête. Il se saisit d'un calendrier des postes. L'ensilage de la première parcelle s'est déroulé le lundi 2 juillet, j'en suis certain. Il a voulu savoir à plusieurs reprises ce que cherchent les gendarmes. Il ne réussit qu'à obtenir des réponses évasives. Il ne voit pas où les enquêteurs veulent en venir. De guerre lasse, il se fait une raison. Il ne saura rien à l'issue de cette visite. Les enquêteurs lui demandent où se trouve sa machine à ensiler les ballots d'herbe. Il tend le doigt dans une direction. Elle est dans le hangar au bout de la cour. Ils referment les fermetures de leur parka et le suivent. L'inspection sommaire de l'engin ne permet pas d'échafauder des hypothèses. La batterie démontée attend les beaux jours dans des locaux à l'abri du gel. Le système de fauche, lui aussi, est absent. Louis l'a enlevé et nettoyé. Il explique brièvement le fonctionnement astucieux de son matériel. L'innovation réside dans l'enveloppe en plastique hermétique qui emprisonne l'herbe. Cette trouvaille permet plus de souplesse dans le stockage. Le chef le remercie pour ses explications et sa gentillesse. Chacun retourne à ses occupations. Avec les éléments dont il dispose, il ne doute pas un instant de l'innocence du négociant. Lorsque la maréchaussée eut disparu au bout de la route, il appelle son frère. Il lui explique la visite de courtoisie de la brigade. Ils conviennent que les gendarmes cherchent quelque chose. Ils ne peuvent émettre d'hypothèses. Ils mettent fin à la conversation, frustrés de ne pouvoir satisfaire leur curiosité. Camille Chenu dort encore à l'arrivée des enquêteurs. Son épouse Marie-Paul les reçoit et réveille son mari. Ils habitent une maison bourgeoise du XVIIIe siècle. Les habitants de Malianville surnomment la demeure le château. Par association, le couple a hérité du titre officieux de châtelain. Monsieur Chenu est une figure locale. Maire de la commune, ses multiples activités l'amènent à côtoyer les gens qui comptent dans la région. Il possède un parc conséquent de machines agricoles, dont deux ensileuses à ruban plastique. Il est aussi l'actionnaire majoritaire de la cidrerie locale. Il arrive tout ébouriffé, contrarié d'avoir abrégé son sommeil. Il comprend, à la vue des quatre gendarmes, que l'affaire est d'importance. Il absorbe le bol de café que lui tend Marie-Paul et s'excuse pour son attitude négligée. Il n'a pas eu le temps de faire un brin de toilette. Il se demande la raison d'une visite aussi matinale le jour de Noël. Ils ne connaissent pas la trêve des confiseurs, se dit-il. La réponse arrive vite. Un homme lui signifie le but de cette intrusion. La gendarmerie nationale enquête chez les négociants en paille et fourrage. Il se déclare à la disposition des autorités et propose de passer au salon pour satisfaire à l'audition. L'entreprise Chenu emploie trois chauffeurs mécaniciens. Avec le patron, quatre personnes manipulent les ensileuses. Les enquêteurs prennent bonne note des coordonnées des employés. L'expédition vers l'entreprise Lachenoz déclenche de nombreuses questions de leur part. Ces derniers veulent obtenir la date exacte du fauchage de l'herbe expédiée en Savoie. Camille Chenu est catégorique. Il affirme que le lot qui les intéresse a été conditionné dans la deuxième quinzaine du mois de juillet. Il pousse l'homme dans ses retranchements. Il demande ce qui lui permet d'être aussi sûr de sa réponse. Le châtelain déclare que la récolte de l'année a été traitée en deux lots distincts. Le premier est parti chez un éleveur dans le Gard début juillet. Tout le reste, récolté après le 14 juillet, a fait l'objet du contrat avec la société Lachenoz. Les informations semblent les satisfaire. Ils souhaitent examiner les deux ensileuses à ruban plastique. Ils demandent quelques instants. Les engins ne sont pas parqués sur la propriété, mais dans un hangar à la sortie du village. Il disparaît quelques instants et revient habillé chaudement d'un bonnet et d'une parka noire. L'examen succinct des machines agricoles ne leur révèle rien. Tout a été démonté, nettoyé, huilé et graissé. Le châtelain referme le portail du hangar. Les enquêteurs le saluent. Il note les dates d'ensilage. Le fauchage du lot destiné à l'expédition en Savoie a été réalisé plus de 3 semaines après la disparition du petit Benjamin. Il faut recouper avec les ouvriers. Il est peu probable que l'entreprise Chenu soit impliquée dans cette affaire macabre. Gilles mobilise les gendarmes de permanence. Un seul assure la garde. Les 3 autres l'accompagnent chez Joseph Palu. L'homme semble fatigué. Il reçoit les enquêteurs dans le couloir. Le lieutenant lui précise le but de la visite. Il réplique qu'il est las de toutes ces tracasseries policières. L'audition débute dans une atmosphère crispée. Gilles demande à voir Éric Palu. Son père répond qu'il est au sport d'hiver, il sera ici demain. Le lieutenant souhaite éclaircir un certain nombre de points abordés lors des précédentes auditions. Il aborde le thème du fauchage. Il veut vérifier les dates et reconstituer le cheminement des graminées du pré jusqu'à l'entreprise Lachenoz. Ses collaborateurs ont reçu des consignes. Il ne faut pas révéler au suspect la découverte du cadavre d'un enfant en Savoie. Joseph Palu répète ce qu'il a toujours affirmé. L'ensilage à la machine a commencé le 17 juin. Les ballots sont restés dans les prés environ 1 mois. Tout le stock a été vendu à la même société. En bon négociant, le père Palu a attendu que la pénurie fasse monter les prix. Il est très satisfait de sa stratégie. Jamais il n'a vendu sa marchandise aussi haut. La sécheresse des autres régions lui a tissé un pont d'or. Le convoyage des ballots vers la Savoie s'est déroulé dans la semaine du 24 au 28 septembre. Afin de ne pas éveiller de soupçons chez son interlocuteur, Gilles laisse entendre qu'il s'agit d'un des derniers interrogatoires. Il n'y a aucune piste et le dossier n'est plus prioritaire. Il inspectera l'ensileuse lorsque le fils sera de retour. La trêve des confiseurs n'est pas de mise au laboratoire national de la gendarmerie. Il est vrai que les assassins sévissent tous les jours de l'année. Le responsable vient de terminer le rapport d'autopsie du cadavre découvert en Savoie. Il procède aux ultimes vérifications avant de le transmettre à la cellule spécialisée. Le lieutenant réceptionne les données sur l'ordinateur. Il range hors de vue le dossier qu'il occupe. Le corbeau peut bien attendre un peu. Il préfère se pencher sur les analyses confiées à ses collègues scientifiques. Les résultats l'intéressent au plus haut point. À l'issue de la lecture, il aura certainement des éléments permettant d'appréhender un suspect. Il prend connaissance de chaque conclusion. Il réfléchit simultanément aux incidences que cela peut avoir sur l'enquête. Il met 2 longues heures à assimiler toutes les données. On ne livre pas l'assassin sur un plateau. Cependant, un grand nombre de questions sans réponse à ce jour trouvent ici leur solution. Il substitue aux termes techniques des mots en rapport à ses attentes. L'ADN prélevé sur la dépouille de l'enfant est celui de Benjamin. La comparaison ne souffre aucune équivoque. Le laboratoire dispose des cheveux du garçonnet, fourni par ses parents, considère qu'une pièce maîtresse avançait sur l'échiquier. Deux autres résultats confirment l'identité du cadavre. Il s'agit de rapprocher l'ADN du cadavre de ceux de Guillaume et Aurélie. Aucun doute n'est permis. L'enfant possède les marqueurs de ses parents. La biologie conforte les liens du sang avec ceux du cœur. Il semble satisfait. Voilà trois points élucidés. L'identité du mort, celle du père et de la mère. Il apprend que l'enfant n'a pas ingéré de manière toxique. Le laboratoire ne peut donner plus de détails. Le spécialiste explique que le séjour prolongé dans de l'herbe en décomposition a accéléré le processus de putréfaction. De ce fait, un certain nombre d'examens complémentaires n'ont pu se dérouler normalement. Les résultats obtenus ne peuvent servir à une recherche objective de la vérité. L'analyse de l'herbe ne donne pas de résultats probants. Les proportions de différentes graminées sont alignées. Il pense qu'il doit y avoir beaucoup de prés en France qui possèdent des répartitions identiques. L'enveloppe en plastique, qui servit de linceul pendant plusieurs semaines, ne révèle rien. Une seule série d'empreintes apparaît plusieurs fois. Les manipulations de Léonce Armand ont laissé quelques traces. La date approximative du décès se situe dans une fourchette allant du 19 juin au 21 juin. Gilles suppose que l'enfant a été tué juste avant d'être dissimulé dans le ballot d'herbe. Il se concentre longuement, il pense avoir trouvé l'assassin et le corbeau. Éric Palu vient de rentrer de son séjour au sport d'hiver. Il se présente spontanément à la gendarmerie. L'homme paraît fatigué. Gilles l'emmène dans une pièce où le décor se compose d'une table et de deux chaises. Le gendarme Buteau l'assiste. L'audition débute par des questions de routine. Éric semble n'être qu'un zombie éveillé. Il avoue ne pas avoir beaucoup dormi avec ses amis à la montagne. Le suspect répond avec lassitude, mais sans fébrilité, aux interrogations de ses interlocuteurs. Gilles perçoit une impression d'immobilisme. Il lui faut changer sa tactique. Il opte pour une stratégie plus agressive. Il est bombardé de questions. Il ne finit jamais sa réponse qu'une autre demande voit le jour. Le harcèlement devient incessant. L'homme semble déstabilisé. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Le lieutenant lui assène le coup de grâce. Il lui déclare qu'il est soupçonné de l'assassinat de Benjamin. Il se prend la tête entre les mains. Il pleure. Son corps se secoue au rythme de ses sanglots. La réalité prend le pas sur le doute. Il craque. Gilles lui demande s'il est l'assassin. Il nie, en déclarant qu'il n'est pas un monstre. Buteau commet une erreur de débutant. Il révèle la découverte du corps de l'enfant dans un ballot d'herbe. Gilles ne fait aucun cas de la bévue de son collègue. En dépit de la fatigue, Éric comprend instantanément la situation. Il s'effondre sur la table. Le lieutenant lui signifie sa mise en garde à vue. Il déclare qu'il est épuisé et qu'il désire voir son père. Il n'est pas envisageable d'autoriser une telle rencontre pendant cette phase. Gilles en informe le suspect. L'interrogatoire dure de longues heures. Les gendarmes trouvent le temps long et l'homme coriace. Il alterne des périodes d'abattement avec des moments de farouche résistance. L'enjeu s'avère crucial. Les enquêteurs possèdent la maîtrise du jeu. Le lieutenant décide d'abattre une carte supplémentaire. Il annonce à son interlocuteur que l'ADN le confondait. Il bluffait. Personne ne pouvait le deviner. Éric sent le piège se refermer autour de lui. Il ne nie plus avec la même véhémence. Sa défense faiblit. Le chat se joue de la souris encore quelques coups de patte et la proie sera à leur portée. Il résiste longuement, esquive chaque coup de griffe. Les dernières révélations du lieutenant mettent fin au suspense. Il avoue le meurtre. Il demande à boire. Buteau apporte une bouteille d'eau. L'homme dort presque sur la chaise. Gilles le transfère dans une cellule afin qu'il se repose un peu. L'interrogatoire reprendra un peu plus tard. Il reste du pain sur la planche. Il faut informer le procureur de la République et les parents de Benjamin. Il préfère attendre le lendemain matin, lui aussi languit de se jeter dans les bras de Morphée.